Radio Prague, les informations.
Cyril Svoboda, élu président du Parti chrétien démocrate tchèque, Mirek Topolánek réagit de la critique de Silvio Berlusconi concernant la présidence tchèque de l'Union européenne. Le leader du Parti conservateur britannique est venu à Prague pour soutenir le Parti civique démocrate tchèque. Le congrès du Parti chrétien démocrate tchèque KDU-ČSL a commencé dans la ville de Vsetín en Moravie. Le congrès se réunit au moment où les chrétiens démocrates tchèques mènent une vive polémique sur la future orientation de leur parti. À son programme, il y a eu l'élection du nouveau président du KDU-ČSL. 4 candidats ont été en lice. Le président sortant du parti, Jiří Čunek, l'ancien ministre Cyril Svoboda, l'eurodéputé Jan Březina et la députée Michaela Šojdrová. C'est Cyril Svoboda qui a été élu au second tour président du Parti chrétien démocrate tchèque. L'ancien premier ministre tchèque Mirek Topolánek a rejeté la critique du chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi concernant la présidence tchèque de l'Union européenne. Selon Silvio Berlusconi, la Tchéquie qui assume la présidence de l'Union a un premier ministre qui manque d'autorité. Le chef du gouvernement tchèque Jan Fischer n'a pas commenté cette déclaration de son homologue italien. Il a annoncé cependant par la bouche de son porte-parole de préparer un entretien téléphonique avec Silvio Berlusconi qui pourrait être l'occasion pour un échange de vues fructueux. Le chef du Parti conservateur britannique, David Cameron, s'est rendu à Prague ce samedi pour soutenir le Parti civique démocrate tchèque ODS avant les élections au Parlement européen. Accompagné du chef de l'ODS, Mirek Topolánek, le leader des conservateurs britanniques a fait une promenade dans les quartiers historiques de Prague. L'ODS envisage de créer avec les conservateurs britanniques une nouvelle fraction de droite au Parlement européen. Un accident tragique a mis fin au rallye Posazavi qui a eu lieu ce samedi dans les environs de la ville de Havlíčkův Brod en Bohême de l'Est. Lors d'une épreuve de vitesse, une voiture a heurté un arbre et le pilote n'a pas survécu à l'accident. Heureusement, l'accident s'est produit à un endroit où il n'y avait pas de spectateurs. Le rallye, qui devait se poursuivre jusqu'à dimanche, a été ensuite terminé. La première édition de la Nuit des Églises en République tchèque a attiré quelques 100 000 visiteurs. 35 églises à Plzeň, à Brno et dans d'autres villes tchèques et moraves ont participé à cette manifestation qui a eu lieu dans la soirée de ce vendredi. L'année prochaine, les organisateurs de cette manifestation aimeraient élever le nombre des églises qui s'ouvriront aux visiteurs. Météo. Ce samedi, fête de tous les Ferdinand, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie a été couvert et il a plu par endroits. Les températures de l'après-midi n'ont pas dépassé 15 degrés. Dimanche, le temps sera toujours maussade et les températures de diurnes se situeront entre 13 et 17 degrés. C'était les informations de Radio Prague qui vous ont été présentées par Václav Richter.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
C'est un enfant qui est le héros du roman « Un roi sans lendemain » de Christophe Donner, un enfant incommode qu'on a laissé mourir en prison. Les révolutionnaires ont guillotiné son père, Louis XVI, et sa mère, Marie-Antoinette, et il a été pendant une courte période roi de France, roi sans couronne et sans lendemain. Dans son roman, Christophe Donner évoque la vie et le martyre de cet enfant, et aussi la vie de l'homme qui devait devenir son bourreau, la vie de Jacques-René Hébert, fondateur du journal satirique Le Père du Chêne. Parallèlement, le romancier raconte une tentative avortée de tourner au début du XXIe siècle un film sur Louis XVII. C'est de tout cela qu'il a été question dans la seconde partie de l'entretien accordé par Christophe Donner à Radio Prague. C'est quand même un roman, une œuvre de fiction. En lisant ce livre, on se demande, bien sûr, dans quelle mesure les faits que vous décrivez correspondent à la réalité, aux faits historiques.
Il n'y a pas grand-chose de non historique. Il y a quelques fabrications de scènes que je n'ai pas vécues, mais qu'aucun historien n'a vécues. Mais par exemple, si on prend la chose la plus troublante pour les gens, qui est évidemment la rencontre du roi et de Robespierre, donc le chef de la révolution, c'est avéré par les historiens, par les espions du premier ministre anglais de l'époque, Pitt, avec des rapports, qui sont d'époque et qui ont effectivement déterminé que Robespierre avait kidnappé l'enfant, l'avait sorti du temple. Et là, il y a un mystère total, on ne sait pas ce qu'il en a fait, mais en tout cas, il l'a ramené au bout de 3 jours. Et moi, je recrée cette scène qui a eu lieu, mais dont on n'a aucun témoignage, évidemment. Donc, et curieusement, aucun romancier ni historien ne se sont attachés à essayer de raconter, d'inventer, d'imaginer ce qui a pu se passer entre ces deux êtres si dissemblables et qui avaient un intérêt commun, qui était de restaurer la royauté et de remettre l'enfant sur le trône. Robespierre étant aujourd'hui, on sait ce qu'on a toujours su, mais qu'on a caché longtemps en France en tout cas, Robespierre était tout à fait royaliste en fait, et il était d'autant plus royaliste qu'il voulait devenir régent. On a une idée de Robespierre, d'un révolutionnaire républicain, c'est tout sauf un républicain et tout sauf un être dévoué à la cause du peuple, c'est un être dévoué à sa propre cause, il voulait régenter. Et il a pensé à un certain moment que le petit enfant pouvait lui servir d'instrument pour ça. Il se trouve, je pense, qu'il a découvert un enfant dans un tel état physique de délabrement qu'il y a renoncé. C'est ma théorie.
Est-ce que le sort tragique de cet enfant, de l'enfant roi, jette une nouvelle lumière sur les coulisses de la Révolution française ? Quelles leçons peut-on en tirer ?
Oui, je pense que ce qui jette une lumière sur tout ce qui est significatif, c'est le silence autour de cet enfant. C'est-à-dire que l'existence de cet enfant, elle est connue, son drame, il est connu, même si au cours du 19e siècle, au début du 19e, beaucoup ont prétendu être l'enfant du temple, etc. Mais toute cette stratégie, en fait, de faux Louis XVII a entretenu le silence, en fait, sur ce meurtre. Et le silence, c'est ça qui est significatif, c'est comment la République française, la République a fait silence sur cette affaire, parce qu'elle mettait en cause, et pas seulement la République justement, aussi les royalistes, parce que finalement ça a arrangé Louis XVIII de voir cet enfant partir. Le fait même est une honte pour la famille royale et pour toute la monarchie française. C'est une honte d'avoir laissé cet enfant mourir, de l'avoir abandonné, etc. Pourtant le peuple a entretenu une mémoire sur cet enfant, a cultivé une légende, même sourde, même sous-jacente.
L'homme que vous considérez comme le principal responsable du martyr de Jeanne Louis XVII est un journaliste, Hébert. Pourquoi parle-t-on de lui si peu, par exemple, dans les livres d'histoire par rapport aux autres personnalités de la Révolution, Danton, Marat, Robespierre?
Parce qu'il n'a pas eu non plus le pouvoir. À un certain moment, il faut être déterminant. Alors, il a été déterminant de manière sous-jacente. Mais c'est vrai qu'il a jamais eu la fonction qui lui aurait permis d'apparaître à la lumière comme Danton ou comme Robespierre. Cela dit, il a eu un rôle très important et aussi important à mes yeux que Robespierre, et un rôle littéraire aussi important, un rôle journalistique. Il a participé de la fondation du journalisme moderne. Il a introduit ce qui est aujourd'hui le pamphlet journalistique. L'idée du pamphlet journalistique, c'est vraiment lui qui l'a créé, quoi. Avec cet humour, avec ce langage populaire, avec cette introduction de la fiction dans le journalisme, qui me passionne beaucoup. J'adore cette façon d'introduire de la fiction dans les récits journalistiques. Et c'est lui qui a inventé ça avec son journal, le Père Duchesne. Il a eu les deux postes, c'est-à-dire qu'en tant que directeur de son journal, qui avait une diffusion énorme, s'appelait Père Duchesne à l'époque, qui était vraiment le journal du peuple, la voix du peuple, avec tout ce qu'elle de plus vulgaire, de plus incendiaire. Il était aussi procureur. Et ça, c'est une chose qui s'est jamais vue, je crois, dans toute l'histoire de toutes les révolutions. Un type qui accuse les gens dans son journal le matin et qui, l'après-midi, va les juger dans un tribunal populaire. Quoi. Ça, même les Chinois n'ont pas osé le faire.
Vous brossez un portrait très antipathique, très même repoussant de Hébert. Pourtant, on a décelé dans votre livre aussi quelques brins de sympathie pour lui. Peut-on trouver quelques circonstances atténuantes pour ses activités?
Ben oui, c'est le talent. Le problème, c'est le talent, c'est que c'est une crapule qui a du génie, quoi. Et ça, ça pose un problème à tous les créateurs, de toute façon. Des gens comme Céline, des gens comme des écrivains fascistes, ils sont écrivains, ils ont du talent, ils ont du génie, et ce sont des fascistes, et ce sont des salopards. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que est-ce qu'on arrête de les lire pour autant, alors qu'ils peuvent apporter beaucoup de choses à leur art, ou est-ce qu'on essaie de comprendre comment justement un homme qui a des opinions peut avoir la grâce divine malgré tout? Donc c'est quelqu'un qui va justement qui va choper dans le peuple une vérité littéraire et qui la ramène sur de l'imprimé, et là il a sa place dans la littérature.
Votre roman est un livre qui marie deux récits en contrepoint. C'est l'histoire de Louis XVII, mais c'est aussi le récit de la création d'un film. Un film qui finalement ne se réalise pas. N'avez-vous pas quand même envie de réaliser un film sur Louis XVII?
Ah oui, oui. Évidemment, j'ai toujours l'envie de faire un film. J'avais aussi l'envie de tourner ce film aujourd'hui, c'est-à-dire avec la présence des gens d'aujourd'hui, parce que les lieux sont les mêmes. La place de la Concorde, qu'on appelle aujourd'hui la place de la Concorde, c'est là où on a guillotiné Marie-Antoinette. De rejouer la scène de guillotine de Louis XVI et Marie-Antoinette sur cette place de la Concorde, ça me paraissait une idée intéressante. Avec les flics d'aujourd'hui, avec les barrières métalliques qu'on met aujourd'hui autour des tournages de films, et de voir les réactions des gens massés devant les stars, et ils vont la guillotiner, faire une espèce de happening comme ça. Voilà, moi c'est le genre de film que je voudrais faire, mais vous pensez bien, je vois bien à votre sourire que c'est une utopie pour un producteur. Voilà, c'est des choses infaisables, c'est des films rêvés, quoi.
C'était la deuxième partie de notre entretien avec l'écrivain français Christophe Donner. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochova, réalisation technique, et à Petr Pokorný, prise de son.
Le Tchèque du bout de la langue.
Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Pour cette fois, nous vous invitons, une fois n'est pas coutume, à vous balader avec nous sur la toile ou Internet, si vous préférez, à la découverte d'instruments de la langue tchèque online. Proposons tout d'abord aux tchécophiles, tchécophones ou futurs tchécophones quelques trucs et astuces sympathiques pour se faciliter la vie. Vous pouvez ainsi faire la connaissance avec un portal baptisé www.cheština.net et qui porte le titre
Čeština po všech stránkách,
soit quelque chose comme le tchèque de tous les côtés. Comme le site l'indique lui-même, il s'agit d'un portal scientifico-popularisant non commercial axé sur la problématique de la langue tchèque sous tous ses aspects. Le site est en construction, il faut donc s'armer de patience et ne pas s'étonner de ne rien trouver pour l'instant dans les rubriques
catalogue, encyclopédie, calendar, forum.
Bon, avouons aussi que le dictionnaire d'orthographe
pravopis
et celui de sens
význam
ne sont pas encore au point. Par contre, les amateurs de phonétique peuvent s'en donner à cœur joie depuis www.cheština.net. Cliquez sur le lien
Výslovnost,
prononciation, puis en haut à gauche sur
fonetická analýza,
analyse phonétique. Et là, miracle. Entrez n'importe quel bout de texte dans la case prévue à cet effet, cliquez sur
analyzovat.
Et cette merveilleuse machine vous retranscrit phonétiquement le texte souhaité. Nous l'avons testé pour vous en entrant le texte suivant.
Čím mladší je slepice, tím menší má vejce.
Soit, plus la poule est jeune, plus ses œufs sont petits. Čeština.net nous indique alors que notre phrase possède 13 syllabes avant de la retranscrire en phonétique. Au passage, on rappellera que la phonétique en tchèque n'est pas très éloignée du texte d'origine, autrement dit que le tchèque, contrairement au français, se lit à peu près comme il s'écrit. L'autre intérêt de www.czeština.net, et le dernier parce que le site est encore très incomplet, est ce qui s'appelle
rimovník,
soit le faiseur de rimes. Ce n'est en effet pas un mince avantage que de connaître l'existence d'une machine à rimes tchèque. Les amateurs et auteurs de poésie, débutants ou pas, peuvent se régaler. Là encore, nous n'avons pas pu nous empêcher de tester ce fameux
rimovník
et avons donc entré le mot
vejce,
soit l'œuf. Et quelle ne fut pas notre agréable surprise que de découvrir la richesse de choix. Dans notre poésie sur l'œuf, on pourrait donc placer des mots comme
akce,
action,
aukce,
vente aux enchères,
blízce,
étroitement,
danče,
jeune d'un,
dárce,
donateur ou donneur,
fikce,
fiction,
frakce,
fraction,
funkce,
fonction,
hladce,
sans à-coups,
horce,
chaudement,
hořce,
amèrement,
krátce,
brièvement,
křehce,
délicatement,
kštice,
toison,
láce,
bon marché,
lehce,
facilement,
lekce,
leçon,
lvice,
lionne. Bref, un choix très vaste et nous vous souhaitons donc bien du plaisir aux futurs poètes. Et pour ceux qui voudraient toujours plus de tchèques, nous terminerons cette émission en vous conseillant deux autres sites intéressants. www.czeština.cz, à ne pas confondre avec www.czeština.net. Czeština.cz est spécialisé dans la transmission informatique de la langue tchèque, avec toutes les complications que cela peut comporter, notamment en termes d'accent pointu, pentu ou encore arrondi. Un site très utile aux webmasters locaux et pour les étrangers hors Union européenne qui souhaiteraient un séjour permanent en République tchèque. Un site vous prépare à l'obligation de passer un examen de langue. www.czeština.cz. Il s'agit d'un tchèque d'utilisation quotidienne et les conseils, méthodes et examens blancs disponibles sur ce site peuvent constituer un excellent entraînement pour ceux qui souhaitent améliorer leur base de tchèque. Et c'est donc sur ce dernier conseil pratique que s'achève ce tchèque du bout de la langue, consacré à la langue tchèque dans tous les sens et sur Internet. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de vous porter du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Courrier des auditeurs. Magdalena Hrozinková.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le courrier des auditeurs magazine qui vous emmène cette fois à la découverte de deux lieux en République tchèque. Nous parlerons entre autres du splendide château de Červená Lhota et aussi d'une chèvrerie tchèque qui accueille des amateurs d'agrotourisme. Mais tout d'abord, quelques brefs messages arrivés récemment à l'adresse de Radio Prague. Je tiens à vous remercier de tout mon cœur de vos émissions qui sont toujours bonnes. Quel plaisir d'écouter Radio Prague, nous a écrit notre auditeur algérien Nouari Nagmouchi. Merci. Bonjour chers amis de Radio Prague, très bonnes émissions avec des programmes bien faits. Merci pour les QSL ferroviaires, elles sont magnifiques, sans oublier les petits cadeaux. Continuez sur cette voie, bravo et courage à tous, sans oublier la technique. Merci également à vous Gérard Pétrizo d'Argenteuil pour ce compliment. Je finis seulement de réparer les dégâts de la tempête du 27 janvier, nous raconte dans sa lettre Michel Guéroux de La Bastiette en France. Et il énumère ensuite un grand sapin sur la maison, des tuiles envolées sur les dépendances, énormément de branches d'arbres un peu partout et 12 peupliers par terre qui sont maintenant presque tous débités et stockés. À part tout cela, tout va bien. Je vous envoie, Monsieur Guérou, un grand bonjour de Prague. Vous avez mon admiration. Je salue également Paul Jamet d'Argenteuil, qui était venu début mai pour quelques jours à Prague. Comment s'est passé votre séjour, Monsieur Jamet? Vous nous dites avoir organisé un forum au Palais des Congrès. Peut-on en savoir plus? Et voici une lettre de François-Xavier Roland-Gosselin d'Angers que nous avons trouvée dans notre boîte aux lettres électroniques. Je trouve sur Internet votre article sur l'élevage de chèvres et gîtes rurales en Bohême du Nord, dans les monts de Lusace. Merci, il donne vraiment envie d'aller découvrir la région. Je vous écris pour la raison suivante. Je dois me rendre dans la région cet été pour aller suivre un stage de chant avec Ida Kelarova au mois de juillet à Jedlova. Je ne trouve pas dans votre article les coordonnées de la chèvrerie. Email, adresse et numéro de téléphone. Auriez-vous la gentillesse de me les faire parvenir, s'il vous plaît ? Fin de citation. Effectivement, en juin 2005, Alan Slivensky avait parlé dans le magazine touristique de la chèvrerie Sophie, en tchèque Kozy Farma Jofin. Elle se trouve au bord de la région protégée des monts de Lusace, en Bohême du Nord, près de la frontière avec l'Allemagne. On y vend des produits à base de lait de chèvre, et effectivement, les amateurs d'agrotourisme peuvent y loger et participer aux travaux d'élevage. Vous trouverez les photos, une carte de la région, ainsi que les coordonnées des propriétaires sur le site www.kozy-zofin.wz.cz. Par ailleurs, le tourisme rural est de plus en plus populaire parmi les Tchèques, notamment parmi les partisans de l'agriculture biologique, mais aussi chez les passionnés d'équitation, de la bicyclette, de la randonnée, de la gastronomie régionale. Vous avez évoqué, Monsieur Roland Gosselin, la chanteuse Ida Kelarova. Cette artiste et femme hors du commun organise en effet des ateliers de chant destinés à tout public. Plus de détails sur www.kelarova.com. Je vous fais écouter un extrait. Farci per spasso pagnoli, usciare a premere i pagnoli. Sacco di veste e basciava, la pegna che me ti dava, la di sciutarghini o magi. Sacco di veste e basciava, la pegna che me ti dava, la di sciutarghini o magi. Farci per spasso pagnoli, usciare a premere i pegnori. Sacco di veste e basciava, la pegna che me ti dava, la di sui gardini romani. Sacco di veste e basciava, la pegna che me ti dava, la di sui gardini romani. Michel Minouflet de Sergi Pontoise, en France, nous a écrit « J'écoute désormais, comme vous le savez, tous vos excellents programmes sur Internet et naturellement, la réception est parfaite. Je peux vous écouter en direct à 13h30 TU quand je veux ou quand je peux. C'est vraiment un très grand service que vous offrez aux internautes. » Fin de citation. Comme d'habitude, vous nous posez, Monsieur Minouflet, une question qui se rapporte au patrimoine culturel tchèque. Cette fois-ci, vous voulez en savoir plus sur le château Renaissance de Červená Lhota en Bohême du Sud, à mi-chemin entre les villes de Jindřichův Hradec et Tábor. Situé au milieu des étangs sur une île rocheuse, Červená Lhota, Červená veut dire rouge en tchèque, et telle est en effet la couleur de la façade. Červená Lhota donc est un des châteaux les plus visités dans le pays, très prisé aussi par des cinéastes. Construit vers 1530 et entouré d'un joli parc avec la chapelle de la Sainte Trinité, l'édifice abrite du mobilier datant des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Confisqué en 1945 à la famille autrichienne des Schönburg-Hartenstein, le château a d'abord servi de centre de convalescence pour enfants avant d'être rendu accessible au public en 1949. Červená Lhota est aujourd'hui classé monument national. Je suggère aux visiteurs potentiels de s'offrir une promenade en bateau autour du château ou encore d'assister à des spectacles organisés dans l'enceinte de celui-ci chaque week-end de juillet et d'août à 11h et à 15h. Bonne visite et bonne semaine si possible en compagnie de Radio Prague. À la fin de ce courrier des auditeurs, un rappel des règles de notre concours 2009. Au revoir.
Radio Prague lance un nouveau concours à l'intention de ses auditeurs. La question du concours est la suivante. Quelle date, quelle époque ou quel événement de l'histoire tchèque vous a le plus impressionné? L'auteur de la meilleure réponse sera récompensé par un séjour d'une semaine pour deux personnes à Prague. Les auteurs d'autres réponses intéressantes gagneront des cadeaux et des objets offerts par Radio Prague. Les meilleures réponses seront publiées dans nos émissions et sur notre site web www.radio.cz pendant le week-end du 27 au 28 juin 2009. Vous pouvez tenter votre chance et nous envoyer vos réponses jusqu'au 12 juin 2009 à l'adresse suivante. Český rozhlas 7, Radio Prague, Vinohradská 12, 120 99, Prague 2, République tchèque. Vous pouvez aussi les envoyer par courriel à l'adresse suivante cr@radio.cz. Le grand prix pour le gagnant est offert par le sponsor du concours, l'hôtel Ungelt, hébergement au cœur de Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on